Le GRPA, l'émission de radio.
Salut à tous dans cette nouvelle émission, cette web radio initiée par le groupe de recherche sur le paranormal alsacien, le GRPA. Je suis avec Valentin.
Bonjour.
Et Ludovic.
Bonjour.
Donc Valentin et Ludovic font partie de l'équipe du GRPA. L'émission va se dérouler en trois parties. Dans la première partie, nous aurons une interview avec une personnalité du monde du paranormal. Aujourd'hui, nous recevons un sceptique, Jean-Michel Abrassard. Dans la deuxième partie, nous aurons le témoignage de quelqu'un qui a vécu un phénomène paranormal. Et dans la troisième partie, nous expliquerons un peu notre façon de fonctionner, nos protocoles, notre matériel et des anecdotes sur nos enquêtes. Passons tout de suite à la première partie, l'interview.
Je suis aujourd'hui avec Jean-Michel Abrassard. Bonjour.
Bonjour.
Donc, en fait, je voulais vous interviewer un peu parce que vous faisiez partie d'une organisation sceptique francophone, le Comité Para.
Oui, c'est exact, ouais.
Et apparemment, vous l'avez quitté, donc.
Oui, c'était dû à des raisons familiales, mais donc je suis ce qu'on appelle un sceptique et oui. Actuellement j'ai surtout un blog et un balado ou un podcast, selon qu'on préfère le vocabulaire français ou anglais, consacré au scepticisme ou à la zététique.
Est-ce que vous pouvez donner vos liens pour les gens qui seraient intéressés par vos podcasts?
Pour le podcast, c'est toujours mieux d'aller directement dans iTunes et de taper dans le moteur de recherche de iTunes. Scepticisme scientifique, ou mon nom Jean-Michel Abrassard. Quant à mon blog, il se trouve sur scepticismescientifique.blogspot.com.
D'accord. Donc vous avez une licence en sciences psychologiques et en philosophie, hein, c'est bien ça?
Oui. Donc j'ai commencé durant mes études en psychologie à m'intéresser au phénomène OVNI et puis j'ai aussi découvert la zététique et un peu plus tard le scepticisme, donc qui est la version américaine de la zététique. Et à cette époque-là, c'est après mes études, c'est vrai que j'ai rejoint l'organisation qui s'appelle le Comité Para, donc le comité ou enfin c'est le surnom qu'il a, mais c'est Comité pour l'investigation scientifique le Comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux, qui est une organisation sceptique qui existe en Belgique depuis 1940, juste après-guerre. Donc c'est la plus vieille organisation dans le monde, à ma connaissance, vraiment ce qu'on appelle sceptique. Bon, avant il y avait des organisations plutôt athées ou rationalistes, mais sceptique dans le sens plus contemporain du terme, c'est la première du genre à ma connaissance. Et après ça, je suis allé vivre au Japon, donc comme j'étais plus en Europe, je suis devenu un peu freelance. Et actuellement, je n'appartiens à aucune organisation. Je collabore avec les organisations en France comme l'Observatoire Zététique et aussi l'AFIS, hein, l'Association pour l'Information Scientifique. J'ai des contacts un peu partout, mais disons, je n'ai de carte de membre nulle part pour le moment.
D'accord. Et donc, vous avez réalisé une thèse en psychologie sur l'approche sociopsychologique du phénomène OVNI. Donc, vous défendez l'idée, en fait, que les témoignages d'OVNI sont le fait de personnalités enclines à la fantaisie. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, en fait, sur cette thèse?
Oui, donc c'est un peu plus complexe que ça. En fait, ce que j'ai réalisé jusqu'à présent, j'ai fait un mémoire donc de licence, donc hein, 50 psycho. Donc à la fin, j'ai fait un mémoire qui s'intitule l'approche sociopsychologique du phénomène OVNI. Ensuite, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle la psychologie de la religion. J'ai travaillé sur la croyance au paranormal. Et actuellement, je suis en train de faire une thèse sur le phénomène OVNI que je n'ai pas encore terminée. Je suis à peu près à la moitié du parcours, si tout va bien. Oui, j'ai publié un certain nombre d'articles sur la personnalité en incline à la fantaisie dans la littérature ufologique francophone, principalement parce que les ufologues n'en parlaient pas. Mais je ne prétends pas que tous les témoins ont ce type de personnalité. Au contraire, c'est probablement une minorité, mais c'est une minorité qu'il faut prendre en compte. Et ça a été particulièrement identifié dans le phénomène des enlèvements allégués par les extraterrestres. Là, probablement que le pourcentage de gens qui ont une personnalité, donc un engagement important dans la vie imaginaire, est relativement important, en tout cas d'après les recherches qui ont été faites jusqu'à maintenant. Mais le témoin de base d'OVNI qui roule dans sa voiture et qui voit juste une lumière dans la nuit, il faut faire des enquêtes pour déterminer leur profil, mais je prétends pas du tout que ces gens-là aient une personnalité encline à la fantaisie. Mais il faut bien se rendre compte que pour quelqu'un de commencer à penser ou à croire qu'elle se fait enlever régulièrement par des extraterrestres, que ces extraterrestres lui font des expériences sexuelles, etc. C'est autre chose que voir juste une lumière dans la nuit.
Ouais, parce que quand on fait des recherches en fait sur Internet, on a l'impression que vous les cataloguez tous, pardon, comme des fantaisistes en fait, les témoins. C'est pour ça qu'en fait.
Je suis pas étonné. C'est ce que généralement les tenants de l'hypothèse extraterrestre écrivent à propos de moi. Parce que c'est une façon, vous savez, c'est le fameux truc. Ils disent les sceptiques ils prennent tous les témoins pour des fous. Alors ils disent ils disent ça. Mais non, s'ils avaient lu attentivement ce que j'écrivais, c'est pas ce que j'écrivais.
Bien sûr.
Pas ce que j'écris.
Et quelle est l'enquête la plus intéressante que vous ayez eu à faire?
Je travaille un peu différemment d'un enquêteur ufologique plus classique. Je suis très lié, à une association qui s'appelle le Comité Nord-Est des groupes ufologiques, le CNEIGU en France, qui se trouve donc localisé principalement dans l'Alsace-Lorraine. Et eux font énormément d'enquêtes visant à répondre à des attentes de témoins et à expliquer donc les observations, essayer de déterminer ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils ont vu Vénus, est-ce qu'ils ont vu la Lune, est-ce qu'ils ont vu un avion, est-ce qu'ils ont vu des lanternes chinoises. C'est très à la mode pour le moment. Mais moi, ça n'a jamais été ma spécialité. Moi, j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse des entretiens de témoins d'OVNI, mais pas dans le but d'expliquer leurs observations, mais en m'intéressant à leur personnalité. C'est ça. Comment est-ce qu'ils ont vécu l'événement d'un point de vue psychologique? Est-ce que ça a changé leur manière de voir le monde? Y a des cas particulièrement évidents, quoi. Par exemple, j'ai interviewé une raélienne. Elle a vu une soucoupe, un ovni quand elle était jeune, et ça a évidemment l'a incité à se convertir par la suite à l'église raélienne. Et j'ai aussi interviewé, par exemple, des choses qu'on voit pas dans la littérature ufologique, parce que les ufologues tendent encore une fois à minimiser ce genre de choses. C'est-à-dire, j'ai interviewé, par exemple, un témoin qui souffrait clairement d'une psychopathologie, donc il était sous médication, et lui, par exemple, il rapportait voir des soucoupes volantes tous les jours, entendre la voix des grilles dans sa tête, etc. Mais généralement, les ufologues, quand ils sont face à ce cas, ils vont se dire, c'est clairement le cas est expliqué, quoi. Enfin, c'est pas un vrai ovni, donc ils vont pas en parler dans la littérature. Mais moi, en tant que psychologue, ça m'intéresse, puisque justement c'est quelqu'un qui va avoir des hallucinations à thématique soucoupique, tu vois. Donc je vais un peu dans des territoires qui sont pas d'habitude pas explorés par l'enquêteur ufologue plus classique, disons.
Ouais, parce que vous trouvez qu'il y a des groupes un peu moins sérieux, un peu fantaisistes aussi, ufologues.
Oui.
Comme partout, je pense.
Oui. Là, c'est une question qu'on me demande souvent. Est-ce que moi, je me considère comme un ufologue? D'une certaine façon, oui, et d'une certaine façon, non. Je dirais que si l'ufologie, c'est vraiment défini comme l'étude du phénomène ovni, oui, je suis un ufologue. Mais généralement, les ufologues, ça va être des gens qui ont une croyance relativement importante dans l'hypothèse extraterrestre. Donc ils vont développer une démarche à laquelle je n'adhère pas. Maintenant, moi, je me préoccupe pas trop de... Il y a ce qu'on appelle en ufologie la frange lunatique. Donc, le terme en anglais, c'est lunatic fringe. C'est des gens qui vont croire dans des choses plus du ressort du nouvel âge, comme ça. Par exemple, les David Icke et les reptiliens, le gouvernement américain serait contrôlé par des...
Ah, les complots.
Ça, c'est la frange lunatique. Ils sont dans un monde un peu différent du nôtre. Essayez de discuter avec eux. C'est intéressant d'un point de vue anthropologique, mais ils sont même pas dans une démarche vraiment scientifique. Ouais. Ils sont vraiment dans de la croyance quasi religieuse. Je m'intéresse de ça en tant que sociologue, mais je vais pas débattre avec ce genre de personnes. Par contre, je critique pas mal. Je travaille beaucoup sur la vague belge de OVNI, et particulièrement la SOBEPS qui a travaillé sur le sujet et qui est aujourd'hui devenue la COBEPS. Évidemment, la SOBEPS a fait toutes sortes d'affirmations au cours des années à propos de la vague belge. Et je réponds pas mal je contre-argumente leurs arguments, en gros, puisque eux essayent de défendre que la vague est inexpliquée. Et bien entendu, ils disent la vague est inexpliquée. Et du coup, ils laissent les gens affairer que, la vraie explication, c'est l'hypothèse extraterrestre. Mais je pense que la première raison pour laquelle la vague est inexpliquée, c'est que eux ne cherchent pas réellement à l'expliquer. Ils cherchent plutôt à dire, c'est pas explicable. Donc je discute beaucoup avec eux. Je débat par article interposé pas mal avec un physicien qui s'appelle Auguste Mason. Mais je veux dire, eux, c'est le haut du panier en matière de croyants dans l'hypothèse extraterrestre. Donc, je ne sais pas, c'est pas la lunatic fringe, c'est quand même des gens qui ont des formations scientifiques et qui ont, simplement, je suis pas d'accord avec eux.
Et vous pensez que toutes ces influences de complots, de vagues, est-ce que ça peut venir de tout simplement des séries télé des années 90 qui ont beaucoup surfé sur cette vague?
Ben, le rôle de la science-fiction est indéniable, et en fait ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'en faisant des recherches, on s'est rendu compte, enfin les sceptiques et des ufologues plus sérieux se sont rendus compte que en réalité le phénomène OVNI existait dans la littérature de science-fiction avant le témoignage originel, donc Kenneth Arnold en 1947. Mmh. Donc le phénomène OVNI commence en 1947. Avant ça, même le mode OVNI n'existait pas. Mais alors, il y avait des choses qui ressemblaient à un bon style Foo Fighters et des choses comme ça. Mais vraiment, le phénomène OVNI commence à ce moment-là, avec des soucoupes volantes, où les gens décrivent des soucoupes volantes. Mais alors, si on remonte au pulp des années 20, donc la littérature de science-fiction pas chère américaine qu'on vendait dans des magazines de mauvaise qualité, on se rend compte que les écrivains parlaient déjà de vaisseaux spatiaux avec des extraterrestres, et tous les détails qu'on retrouvera ultérieurement, la manière, quand on lit les histoires, on voit déjà le narratif, c'est-à-dire être perdu dans la campagne, tout d'un coup on voit une lumière, le vaisseau se pose, l'extraterrestre en sort. Et donc les écrivains de SF ont écrit tout ça avant même que le phénomène OVNI commence. Donc ça s'appelle dans la littérature le paradoxe science-fiction soucoupe volante. Il y a différentes façons pour les croyants de contre-argumenter ce problème, qui est à mes yeux un problème très épineux pour eux. La première version, ça serait de dire, oui, mais en fait, le phénomène OVNI a commencé en 1947, mais les extraterrestres nous visitent depuis toujours, donc blablabla. En réalité, on peut retrouver des choses dans le passé. Ça, c'est la première argument typique. Ou alors, si on est plutôt un croyant dans l'existence de processus paranormaux, authentiquement paranormaux, on peut dire oui, mais les écrivains de science-fiction étaient en quelque sorte voyants, ils ont vu le futur, et alors ils ont écrit par prémonition. Évidemment, je ne trouve aucune de ces deux explications très convaincantes. Mais voilà, donc ça c'est le paradoxe. Ben alors évidemment, après, la science-fiction continue à influencer. Par exemple, Betty et Barney Hill, le premier cas, en tout cas, il y a eu aussi peut-être des cas qui ont été retrouvés par la suite antécédents, mais disons le cas qui fonde le phénomène des enlèvements par les extraterrestres, ils ont récupéré leurs souvenirs d'enlèvement sous hypnose, principalement, après avoir eu une observation d'OVNI relativement basique. Mais alors, le mari, donc Barney, a décrit ce qui est devenu maintenant célèbre, le gris, la grosse tête blanche avec les yeux noirs, sans iris. Classique. Il est classique depuis ce moment-là. Mais alors le problème, c'est que un ufologue sceptique a découvert que la semaine d'avant, il y avait une série de science-fiction qui s'appelle The Outer Limit, qui avait diffusé un épisode où il y avait exactement ce type d'alien-là dans l'épisode. Donc ce qu'on pense, c'est que Barney a vu cet épisode, et la semaine suivante, quand il est allé chez l'hypnothérapeute, c'est revenu lors de sa session hypnotique. Donc là, on a une influence directe de la science-fiction sur même le contenu d'un témoignage.
Et est-ce que vous avez eu une affaire ou vous n'avez pas trouvé d'explication rationnelle?
Oui, mais ça, je veux dire, c'est le fameux, ce qu'on appelle les cas... Enfin, personnellement, oui, il y a des cas sur lesquels en sceptique, on débat toujours. Même pas... Allez, basiquement, le cas Kenneth Arnold, c'est un cas qui était extrêmement débattu. Donc, il était au-dessus des monts Rainier, et puis il voit une escadrille d'objets en forme de crêpe aplatie sans fond. Donc, c'est un peu une forme de boomerang, même s'il n'en parle pas à ce moment-là. Alors, il y a eu toutes sortes de... Oui, alors, ce qui est super marrant, c'est qu'il voit cet objet-là qui ressemble pas du tout à une soucoupe. Ben, ça ressemble plutôt à un boomerang, mettons, ou une demi-crêpe. Le lendemain, il parle à un journaliste et il décrit l'objet comme ça, comme je viens de le faire. Mais alors, il dit ces objets se déplaçaient comme une soucoupe qu'on ferait ricocher sur l'eau. Donc, il est en train de parler du déplacement, tu vois. L'objet fait boum, boum, ricochet sur l'eau comme ça. Il est en train de décrire le déplacement de l'objet. Il utilise le mot soucoupe dans cette phrase-là. Mais le lendemain, le journaliste écrit qu'il a vu une soucoupe volante, alors qu'il avait décrit des boomerangs. D'accord. Et dans la semaine qui suit, il y a eu des dizaines et des dizaines, c'était la première vague d'OVNI, de témoins qui ont vu quoi? Des soucoupes volantes et pas des boomerangs. À cause du fait que les médias avaient parlé de soucoupes et pas de... On leur avait donné la mauvaise forme à voir.
Tout l'influence des médias.
Oui, on peut pas minimiser ce genre de choses, c'est incroyable. Oui, donc ce cas d'origine-là, il y a eu des débats, ça a été suggéré des pélicans, parce qu'ils auraient, quand ils volent en formation comme ça, ils ont la forme d'un boomerang, ils ont des ailes blanches, donc ça reflèterait la lumière du soleil. Il y avait ça, puis alors il y a eu une hypothèse du météorite, mais alors ça dépend, parce que Janet Arnold a donné des estimations de distance et de vitesse, mais ces estimations sont probablement fausses, donc le débat tourne à quel point ces estimations sont fausses, parce que si c'est une météorite, alors son estimation est très fausse. de la durée, par exemple. Mais si c'est un pélican, c'est son estimation de la vitesse qui est très fausse, parce qu'il dit que les objets allaient très vite. Mais alors, ils pouvaient être très loin et aller très vite, ou alors en réalité très près et ne pas aller si vite. Enfin, tu vois, c'est des effets de perspective. Mais alors, évidemment, bon, les ufologues croyants, ils disent « Oh, mais voyez, vous ne suivez pas ce que dit réellement le témoin. » Enfin, parce que la croyance fondamentale des ufologues pro-extraterrestres, c'est que le témoignage humain est très fiable. Hein. Donc, ils disent « Kenneth Arden a donné cette vitesse-là, donc les objets allaient à cette vitesse-là, point barre. »
D'accord. Ils n'ont pas fait de mesure sur le terrain, quoi.
Donc à l'heure actuelle, il y a certains types d'avions de l'époque qui pourraient correspondre, mais je veux dire, il n'y a pas de réponse. Aucun ufologue sceptique n'a une réponse catégorique à comment expliquez-vous l'observation de Kenneth Arnold. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est un point fondamental de la démarche zététique ou sceptique pour l'étude de ces phénomènes, c'est qu'en fait, un cas inexpliqué ne prouve rien. La seule chose qu'un cas inexpliqué prouve, c'est qu'on ne sait pas l'expliquer. Donc, on peut rien conclure de ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est je ne sais pas. Mais le problème, c'est que les ufologues pro-extraterrestres font une erreur de logique. Ils disent on ne sait pas, donc on conclut que. Ils n'écoutent pas raisonner, en fait. Parce que s'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas conclure quelque chose de ça, quoi, tu vois.
Il y a deux extrêmes, en fait. Il y a les sceptiques qui disent qu'il n'y a rien de, comment dire, paranormal. Et dans l'autre sens, il y a les ufologues pro-OVNI qui croient qu'il y a quelque chose de paranormal, quoi. Du coup,
c'est extrême. Mais je pense que même, quelles que soient nos convictions, je pense que ça, c'est vraiment une erreur de logique purement sur un plan purement logique, en fait. Parce que on le retrouve en religion, ça s'appelle l'argument of the gap, donc l'argument du trou. Hein. Depuis très longtemps, les créationnistes, etc., ils argumentent comme ça. Hein. On ne sait pas expliquer cet élément-là dans la théorie de l'évolution, donc... les ufologues font le même jeu, ils disent on ne sait pas expliquer telle observation, donc ça prouve l'hypothèse extraterrestre. Moi je suis là, non, ça prouve juste qu'on n'a pas réussi à expliquer cette observation. Moi ça ne m'empêche pas de dormir le soir, hein. C'est juste qu'il y a plein de choses qui font qu'on ne sait pas expliquer une observation. Ça peut être le manque d'informations, l'enquête qui a été mal faite, ou simplement qu'on n'a pas encore réfléchi à la solution, parce que parfois il faut être très créatif. Et on n'a pas encore songé à la bonne explication. Et puis bon, peut-être qu'un jour on la trouvera, ou peut-être qu'on, par manque d'informations, quoi, on ne trouvera jamais. Mais bon, et alors, ça ne prouve rien. Si on voulait avoir vraiment une preuve des visites extraterrestres de notre planète, il faudrait soit avoir un échantillon de biologie extraterrestre, quoi, de l'ADN, ou un spécimen d'extraterrestre mort ou vif, hein, ou il faudrait avoir un échantillon de soucoupe volante, de technologie indubitablement extraterrestre, ou une soucoupe volante en état de marche, ça serait génial. Mais on n'a jamais eu tout ça, donc en attendant qu'on ait ça, je veux dire, c'est jamais que de la spéculation, quoi, tout ce que les ufologues disent.
Est-ce que vous vous intéressez essentiellement à l'ufologie, ou vous avez d'autres domaines de prédilection?
Non, moi je me suis, bon, forcément, puisque je fais ma thèse sur ce sujet, je me suis intéressé beaucoup au phénomène OVNI, mais avec le temps, j'ai commencé à de plus en plus m'intéresser à la parapsychologie, donc j'ai fait un certificat en parapsychologie en ligne de l'Université d'Édimbourg, donc, parfois les gens me disent, mais c'est un certificat bidon, quoi, tu l'as acheté dans une boîte à surprise ou quelque chose, mais non, c'est à l'Université d'Édimbourg en Écosse, très, très sérieuse université. Donc, j'ai fait une formation en ligne d'un semestre, comme ça, et, que je conseille d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés par la parapsychologie sérieuse, le certificat de parapsychologie en ligne d'Édimbourg est très bien. Oui, donc je m'intéresse pas mal à la parapsychologie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai jamais réalisé de moi-même d'enquête sur des phénomènes de hantisme. C'est des sujets qui m'intéressent aussi, un peu comme vous. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés sur la net, quoi.
Parce que c'est vrai qu'il y a aussi, comme en ufologie, des groupes plus ou moins farfelus dans ce domaine. Et vous pensez que l'influence vient aussi de ces émissions de télé du genre TAPS ou Ghost Adventure?
Oui, je pense que l'influence est claire et non ambiguë. Je disais. Sur Internet, sur le forum de l'Observateur Zététique, on en parlait. Bon, par le passé, il y a eu, donc, l'une des principales organisations sceptiques, c'est le XICOP. Committee for Skeptical Inquiry maintenant, mais ils ont un enquêteur à temps plein sur des phénomènes supposés paranormaux, John Nickel, et il a jamais fait partie d'une équipe. Je veux dire, il fait des enquêtes bon, parfois il fait appel à des domaines bon, d'expertise si tu as besoin d'un expert, mais et alors aussi plus récemment, parce que John Nickel maintenant il a la soixantaine, donc il a publié énormément de livres avec des études de cas, mais il a écrit au moins une vingtaine de bouquins. Mais alors maintenant il y en a un deuxième là, Benjamin Radford, qui a repris un peu, mais lui aussi il fait pas partie d'une équipe quoi, donc cette idée qu'il faudrait avoir une équipe, je pense que ça vient vraiment de TAPS. Enfin, de l'émission Ghost Hunter. Et je veux dire, ça donne le goût aux gens. Ils voient l'émission et ils se disent, ah, mais... Surtout que dans TAPS, ils ont aucune compétence, quoi. Enfin, je crois qu'ils sont plombés dans leur... quand ils sont pas chasseurs de fantômes. Donc, ça donne l'idée que sans expertise particulière, tout le monde peut faire ça, quoi.
De manière... Chose, quoi. Chaque enquête...
Oui, ils sont à la 7e saison. Ils ont prouvé chaque semaine depuis 7 ans que les fantômes existent, sauf que ça n'a convaincu aucun scientifique dans le monde, quand même.
C'est vrai qu'en France, nous avons Yves Lignon, qui est parapsychologue. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, je connais.
Tu es très intéressant dans son domaine.
Yves Lignon, il est un peu différent de... Je veux dire, TAPS, Ghost Hunter, c'est vraiment pseudo-scientifique, quoi. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien à sauver, ce qu'ils font, quoi. Yves Lignon, je veux dire, c'est un tenant de l'existence des phénomènes paranormaux qui est... Comment je pourrais dire ça de manière adéquate. Non, mais je veux dire, il a une certaine connaissance. Je veux dire, c'est pas un plombier dans la vie de tous les jours, quoi. Je veux dire, il a lu la littérature, etc. Maintenant, je pense qu'il est connu en France principalement parce qu'il n'y a personne d'autre, quoi. Il occupe une niche. Je veux dire, j'ai jamais lu, parce que dans la littérature parapsychologique, j'ai jamais lu d'articles qu'il ait publiés dans des revues vraiment sérieuses. Il a sa propre revue de parapsychologie, mais il a écrit des bouquins hein, comme ça, mais en termes de recherche expérimentale, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais en tout cas, s'il a publié des choses, je les ai jamais vues. J'ai vu qu'il a travaillé sur des tas de choses, un peu des mystères historiques et des études de cas qui publie dans des livres, quoi. Mais je veux dire, on sait bien que la science par la publication dans des revues scientifiques, un comité de lecture. Donc, pour vraiment faire de la parapsychologie sérieuse, je dirais qu'il est encore un peu amateur, en réalité.
Ok. Mais merci, Jean-Michel Labrassa.
De rien.
Thank you.
Et donc nous avons le témoignage de Noël en fait, qui va nous raconter ce qui s'est passé. Bonsoir Noël.
Bonsoir Grégory.
Voilà.
Donc il y a environ 6 ans, j'ai eu, on va dire, la visite d'une brume dans ce qui était ma chambre à ce moment-là. Donc c'était par une nuit sans tout à fait normale, une brume qui ondulait de façon qui il y avait à peu près la dimension à peu près 2 mètres sur 2 environ.
Oui.
Assez comment dire ça, pas comme une fumée normale, quoi, une brume assez compacte. D'accord. Qui ondulait.
Ok, c'était vers quelle heure?
Il devait être à peu près 23h, vers 22h30.
Ok.
Et bon, toute la partie là, enfin tout le secteur là, qui est assez froid, mais très très froid. Alors que c'était en plein été, quoi, c'est ça le problème.
D'accord.
Donc il devait faire 27-28 degrés dehors. Et dans la proche périphérie de cette fameuse brume, il devait faire à peu près 10-12 degrés, quoi.
Mmh.
Donc c'était très très froid. Et donc cette brume ondulait, puis ce coup a disparu.
D'accord, ok.
Voilà, donc à cette heure-ci, je ne sais toujours pas ce que c'est. Ça n'est jamais plus réapparu.
Ok.
Encore maintenant, je ne sais toujours pas ce que c'est.
Et ça a disparu comment, d'un coup comme ça ou...
Quasiment d'un coup, tout à fait. Mais oui, c'est. Je l'ai vu l'ondulation accélérer, puis disparaître.
D'accord.
Il n'y a plus rien.
Et vous étiez où à ce moment-là alors?
J'étais chez moi. Donc j'étais chez mes parents à ce moment-là.
D'accord.
Et donc c'est vrai que ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce que c'était, quoi.
D'accord, ouais.
Je n'avais jamais eu à ce moment-là de phénomène ni expliqué.
Ouais.
Donc c'est vrai que quand on se retrouve devant ce genre de phénomène, on est obligé de se poser des questions, quoi.
C'est vrai que le froid a souvent été étudié dans les maisons dites hantées, en fait. Une sensation de froid, voilà, en fait.
Mais là, c'était vraiment de la périphérie de cette fameuse brume. C'était vraiment très, très froid.
D'accord, donc vous avez osé vous approcher et la toucher, en fait.
Non, je n'ai pas du tout osé.
C'était d'accord.
Plutôt, quoi, je me suis demandé qu'est-ce que c'était, quoi. C'est vraiment, c'était... Ça, vraiment, je m'en souviens encore, quoi. J'ai encore la chambre de poule, quoi.
Et chez vous, aucun autre phénomène spécial?
Depuis, j'ai eu quelques-uns, si. J'ai eu des... il y a quoi, à peu près 2 ans, j'ai eu... des espèces de comment dire ça, de formes
humanoïdes,
des ombres, tout à fait, des ombres, voilà. Mais vraiment non pas dans la vue de côté, mais vraiment face à moi.
D'accord.
À peu près 2 mètres, voyez, à peu près 2 mètres. Donc c'est vrai que ça aussi, ça me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je deviens fou, quoi? C'est ça le problème, est-ce que je deviens fou?
Donc vous avez eu cette brume et des apparitions d'ombres comme ça, en fait.
Tout à fait. Tout à fait.
Ok, et à part ça, rien d'autre. Enfin, ça suffit bien, on va dire, mais...
Oui, tout à fait. Ça, j'ai beaucoup fait déjà. Quelques PVE.
Des PVE, oui. Vous les avez sur en MP3?
Je les avais en MP3, mais malheureusement, c'était sur un PC qui, malheureusement, n'est plus de ce monde. Tout à fait. Mais c'est vrai que à ce moment-là, je me suis vraiment demandé est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre part, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et comment dire, j'arrive plus non plus à parler. La maison, elle date de quand alors?
Alors la première maison, elle date à peu près d'une trentaine d'années environ.
D'accord, vous êtes il y a eu des gens avant, comment ça s'est passé?
Il y a eu des gens avant, mais il n'y a pas eu de problème on n'a pas eu de retour, pourquoi il y a eu des problèmes.
D'accord, ok.
Donc c'est pour ça que on ne s'explique pas.
Donc vous habitez dans les Vosges, hein?
Tout à fait.
Merci Noël pour ce témoignage.
Et merci Grégory.
Et merci d'être un habitué du forum. Donc
tout à fait, oui.
Merci aussi pour votre présence.
Ah, mais je fais ce que je peux, on va dire, je fais ce que je peux.
Merci Noël et au revoir.
Au revoir.
Donc nous arrivons vers la fin de notre émission et nous parlons en fait de nos expériences, de notre groupe de recherche, de nos protocoles et nos enquêtes. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à notre dernière enquête qui était le musée de l'Abri à Hatton. Ludovic, tu peux nous en parler un petit peu ?
Bah oui, en fait c'était ma première enquête au sein du GRPA.
Oui.
On a eu un témoignage d'un témoin à un certain endroit du musée. Voyez une personne. Et à chaque fois qu'on passait à cet endroit-là, on avait la chair de poule.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait un froid assez inexplicable. Enfin, pas vraiment un froid, puisqu'au niveau des relevés de température, il n'y avait pas de baisse. Non. Mais quand on passait, on avait une chair de poule justement à cet endroit. Maintenant, est-ce que c'est peut-être parce qu'on a entendu l'histoire du témoin avant, c'est tout à fait plausible.
Donc, comme on dit, on cherche des explications rationnelles. Comme dit, le fait que le témoin nous a raconté le témoignage juste avant l'enquête, c'est vrai que ça a pu jouer. Donc, c'est une explication qu'on avance au jour d'aujourd'hui, quoi.
Exactement.
Et au niveau de cette enquête aussi, on avait entendu des frottements, comme des bruits de pas, mais suivis d'un frottement. Et c'est vrai qu'on n'a pas non plus d'explication à ce jour, mais donc on n'a pas d'explication sur ce phénomène. C'est vrai que dans le bunker, on était enfermé à l'intérieur, quoi, donc personne n'aurait pu rentrer. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de tuyauterie aussi dans le bunker. Donc les bruits pourraient très bien être expliqués, quoi. Voilà.
Oui, autre anomalie, le détecteur EMF.
Oui, tout à fait, le détecteur EMF qui a provoqué une grande fluctuation à 10. Attends. Donc on a eu une fluctuation du détecteur de champ électromagnétique à 1000 MHz qui a duré à peu près 2 secondes. C'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune raison qu'il y ait cette fluctuation. On avait éteint l'électricité dans le bâtiment. Et ça a duré vraiment 2 secondes. Maintenant, est-ce que c'est peut-être un souci au niveau de l'appareil? C'est vrai qu'on n'a jamais eu de souci par rapport à ce détecteur, mais c'est vrai que c'était assez étrange. Mais comme dit, nos enquêtes, c'est pas comme dans des émissions de télé américaines, quoi. Il se passera pas des choses spectaculaires. Vous pouvez confirmer, je pense.
Ouais. Ouais, exactement, quoi.
Donc voilà, faut être très prudent en fait sur les lieux, faut être rationnel, faut trouver des explications. C'est vrai qu'il y a des groupes plus ou moins farfelus en France qui enquêtent à cause du phénomène TAPS, Ghost Adventure et compagnie. Et c'est vrai que dès qu'ils trouvent une poussière sur une photo ou un son bizarre, ils en déduisent tout de suite que c'est un fantôme. Donc on va un petit peu parler du matériel que nous utilisons sur nos enquêtes. Donc on a du matériel basique, hein, par exemple des lampes de poche, carnet, crayon, ça peut paraître bête, mais c'est vrai que c'est très important sur le lieu d'une enquête pour tout noter, enfin vraiment tout noter pour ensuite voir coïncider les moments avec les phénomènes. Le thermomètre est un instrument vraiment utile aussi pour voir les baisses de température, parce que d'après une théorie, il y aurait des baisses de température si un esprit essaie de se matérialiser. Nous avons aussi des dictaphones numériques pour l'enregistrement de PVE, même si on a beaucoup de réserves aussi sur les enregistrements de PVE parce que les sons, comme dit, non. On peut le faire écouter à 10 personnes et c'est vrai que sur les 10 personnes, les 10 entendront autre chose sur le PVE, donc il faut vraiment être très prudent. Nous avons aussi comme dit avant, un détecteur de champs électromagnétiques. On n'a pas vraiment eu de résultats probants avec. C'est vrai qu'il y a une théorie qui dit que si un esprit se matérialise, il aspire l'énergie et donc ça crée des pics de champs électromagnétiques, mais on n'a pas eu vraiment eu d'expérience probante avec cet appareil. Nous avons bien sûr des appareils photo numériques. C'est vrai que les photos, on n'a jamais eu non plus de résultats probants. Un jour peut-être, qui sait.
Ouais, qui sait. On espère. Ouais.
Nous avons des caméscopes qu'on peut placer à plusieurs endroits aussi, dont un caméscope infrarouge pour filmer nos enquêtes. Et en gros, nous avons aussi un système de vidéosurveillance webcam infrarouge qui nous permet de placer aux endroits stratégiques. Donc, comme dit, ça, c'est vraiment des instruments de base. C'est vrai qu'on pourrait, au fil des enquêtes, on va peut-être essayer une nouvelle technique, mais c'est vrai que c'est ce qu'on utilise pour l'instant. Merci à tous pour votre écoute. Nous nous retrouverons peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, cela dépend comment on avance sur l'émission et le temps qu'on prendra pour la faire. Donc, à bientôt. Au revoir. Au revoir Ludovic et au revoir Valentin.
Au revoir. Au revoir tout le monde.